Bonsoir à toutes et à tous, on est content de vous retrouver par les temps qui courent. C'est tous les soirs une heure d'entretien avec les artistes qui font l'actualité culturelle. Ce soir, le comédien Vincent Lacoste.
Un tango, une danse, un baiser.
Du bouda, bébé, bébé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21.
Marie Richeux.
Et c'est seulement dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Ce n'est pas toujours simple de faire la lumière sur ses désirs. Dans le dernier film de Thomas Lilti, Benjamin embrasse-t-il des études de médecine par vocation ou pour satisfaire et reproduire les ambitions paternelles? À ses yeux, est-il plus important d'obtenir sa première année, de recevoir un coup de fil de son papa, de se lier avec sa discrète voisine de palier ou d'honorer l'amitié qu'il a tissée à coups d'heures de révision avec Antoine? Ce pourrait être un QCM, mais ce sont les questions que mettent en scène le scénario de première année qui sort en salle mercredi prochain dans ce film. Vincent Lacoste, vous interprétez le fameux Antoine à qui se pose d'autres questions. La maîtrise des codes sociaux par exemple qui ne sont pas les siens. Triplant sa première année de médecine, la charge de travail, son manque de sens, les trajets trop longs, les livres trop chers lui font plier sous la pression, mais réaffirmer la profondeur de sa motivation pour être médecin et c'est cela en bon happy end qui va triompher. Bonsoir Vincent Lacoste.
Bonsoir.
Ce film-là donc sort mercredi prochain. Merci beaucoup d'être là et on va commencer par planter le décor.
Merci pour cet accueil chaleureux. Je suis Bernard Bertonnet, votre doyen, et à ce titre, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue, et notamment et plus particulièrement aux premières années. J'espère que vos conseillers d'orientation vous ont bien prévenu. C'est une année difficile, notamment cette année où vous êtes 20% d'inscrits supplémentaires. Les études de médecine sont une filière sous tension. Dans cet amphi, par exemple, seuls les deux, peut-être trois premiers rangs passeront en deuxième année.
Quand on sait que dans la fac, il y en a trois des amphibros à craquer, ça calme.
Pour ceux qui n'ont pas eu de mention au bac S, vos chances de passer du premier coup sont de 2%.
Je m'appelle Antoine. Bonjour.
Ça fait du bruit en amphi de médecine. Vous vous attendiez à ça ou pas comme décor sonore Vincent Lacoste avant de tourner ce film-là?
Absolument pas. Moi, surtout, j'avais jamais mis les pieds dans un amphi, en fait, donc je découvrais un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est plus calme au lycée et au collège, quoi. Donc non, je m'attendais pas vraiment à ça. Après, c'est réputé comme étant un peu le bazar, en tout cas comme étant assez festif de temps en temps les amphis, quoi. Mais
est-ce que vous avez l'impression qu'il a souligné ce trait-là ou pas? Parce que c'est vrai que c'était assez surprenant de se retrouver dans des amphis où ça hurle dans tous les sens, où les profs sont raillés, voire ils entonnent des chansons grivoises. C'est quelque chose que vous a raconté Thomas Lilti comme étant véridique?
Ouais, bien sûr. Bah, il y a une grande, de toute façon, il y a une grande culture paillarde dans la médecine, un peu, hein, j'ai l'impression. Mais après, bon, c'est pas tout le temps comme ça non plus. J'ai l'impression que c'est plus au départ, quand c'est avant les vacances, et ensuite à la fin, quoi. Sinon, entre temps, ils écoutent et ils prennent des notes, et ensuite ils font que travailler, quoi.
C'est pas la première fois que vous tournez avec Lilti, et pas non plus la première fois que vous tournez un film qui a rapport avec ce monde-là. Alors, il y avait le plaisir de retrouver le réalisateur ou de retrouver cette thématique ou de retrouver les deux?
Bah, les deux, parce que moi, j'avais beaucoup aimé Hippocrate. C'était quand même une assez jolie aventure parce que...
Vous nous racontez, pour ceux qui ne l'ont pas vu?
Bien sûr. Hippocrate, c'est un film sur un jeune interne en médecine, en fait, qui se retrouve dans un... L'internat, c'est à la 6e ou la 7e année des études de médecine, donc quand ils ont 24 ans à peu près. Et il se retrouve dans un service médical à devoir s'occuper des patients, mais comme des vrais docteurs, quoi. Donc c'est énormément de responsabilités, c'est extrêmement dur et tout ça. Donc c'était l'histoire de ce jeune interne que j'interprétais, Benjamin. Voilà, et c'est un peu c'était déjà un film de Thomas Lilti, et c'était un peu moi un rôle qui a un peu changé des choses pour moi parce que avant c'était un rôle plus mature que les autres choses qu'on me donnait avant en général, quoi. Donc ça a été assez important pour moi, et puis le film a pas mal marché, donc voilà, c'était chouette. Donc forcément, j'avais envie de retravailler avec Thomas aussi, parce que Parce que voilà, après moi j'aime bien faire des films avec des personnes avec qui j'ai aimé travailler. Donc, et là en fait le film il est plus centré sur les études. C'est vrai que c'est la première année de médecine, mais mine de rien ça aurait pu être une autre année d'études supérieures, quoi. Parce qu'il voulait vraiment, il voulait surtout parler de la compétition et de voilà de la manière dont on forme les gens avant d'entrer dans la vie active, quoi. C'est-à-dire d'une manière extrêmement compétitive, avec énormément de travail et puis vie sociale, quoi.
Comment il est arrivé jusqu'à vous pour Hippocrate, Thomas Lilti?
Ben, je sais pas trop comment il avait eu l'idée, en fait, parce que moi, surtout, j'étais bien plus jeune que le personnage. J'avais 19 ans quand je l'ai fait, et le personnage, il avait 24-25 ans, donc mon âge aujourd'hui. Mais après, je pense qu'il avait vu Les Beaux Gosses. En plus, à cette période, quand il m'a proposé le film, il n'y avait pas même Astérix et tout ça, c'était pas vraiment sorti. Donc il avait vu Les Beaux Gosses, le Skylab, et voilà. Donc il m'a proposé le film. En plus, je sais pas, il a vu un truc chez moi d'extrêmement mature, peut-être, je ne sais pas.
Il a été récompensé, comme vous le dites, c'était une aventure avec succès. Est-ce que ça forge forcément un élan ou des amitiés dans le métier que de sortir un film qui réussit, et peut-être à l'inverse, est-ce que c'est difficile de sortir des films qui sont plus difficiles, mais...
Oh, après je sais pas. Oui, quand les films marchent pas, on est toujours déçu. Après, c'est pas parce qu'un film marche que tout d'un coup on veut devenir extrêmement amis, quoi. C'est-à-dire, sinon ça serait un peu superficiel. Mais non, là le tournage s'était très bien passé, et puis surtout le film avait mis vraiment longtemps à se financer, Hippocrate. Donc on avait fait un teaser avant pour attirer les financiers et tout ça, et on avait fait donc un pré-tournage. Ensuite, ça avait mis au moins un an ou deux ans à se financer, quoi, dans l'état tel que c'était à cette époque-là. Donc en fait, on s'était vachement vu avant le tournage et on était devenus amis. Donc on était amis avant, et ensuite, après c'était génial ce qui est arrivé au film, quoi. Mais on n'est pas devenus amis parce que ça a été un succès, sinon c'est quand même un peu scandaleux, quoi. Genre, il y a un succès, ouais, t'es mon meilleur pote, maintenant on va faire des belles choses ensemble.
D'autant que c'est un peu aussi le sujet en filigrane de ce film-là, Première Année, qui dit l'amitié entre deux jeunes hommes qui se rencontrent, le premier qui triple, que vous interprétez, et puis le deuxième qui est, comme on dit, première année, c'est ça ?
Ouais, primant.
Primant.
Primant, on dit, ouais. Bah ouais, c'est ça, mais moi je trouvais ça assez marrant quand il m'a proposé le film, parce qu'il raconte une histoire d'amitié dans un contexte, c'est-à-dire cette première année, qui favorise pas du tout l'amitié, étant donné que c'est extrêmement compétitif. Avoir un ami, concrètement, ça fait perdre du temps sur ses révisions, et donc voilà, ça c'était assez marrant, quoi. Et pour autant, il fait un film extrêmement réaliste sur la première année, mais il met quelque chose d'assez romanesque et tout ça dans l'histoire d'amitié. C'est comme une histoire d'amitié impossible, un peu, quoi. Il y a souvent des films sur les amours impossibles, là c'est une amitié impossible, mais du coup je trouvais ça assez joli.
Et il vous le présente comme un film davantage sur la première année de médecine, ou justement plus sur cette histoire d'amitié impossible et la manière dont l'amitié triomphe sans révéler trop la fin du film.
Mais ouais.
Il vous le dit comment, lui, ou alors comment le dit le scénario au départ ?
Au départ, après, il voulait vraiment... je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire, il voulait vraiment faire un film sur la première année de médecine, ça c'est sûr, et sur les études en général, qui raconte des choses sur les études en général. Il voulait vraiment faire un film là-dessus. Après... je pense que les deux sujets l'intéressaient, du coup il a mixé les deux. Mais par exemple, à un moment donné, il s'est demandé s'il allait pas mettre un personnage féminin, par exemple. Mais en fait, ça aurait été naturellement, il y aurait eu comme un espèce de truc où les gens auraient attendu plus une histoire d'amour, un truc comme ça. Et du coup, en fait, ça allait pas parce que parce qu'il y a pas le temps, en fait. Enfin, j'en sais rien.
En première année de médecine, c'est ça ?
Oui, en première année de médecine, ouais. Du coup, il s'est dit qu'il allait faire une histoire d'amitié. Et voilà, quoi. Mais je pense qu'il voulait raconter ça aussi, parce qu'en fait, c'est ce qui fait partie du film, quoi, comme dans Hippocrate. D'ailleurs, c'est souvent dans le cas dans ces films, même dans Médecins de campagne, il y a souvent deux personnages principaux. Et dans ce milieu, à chaque fois, c'est des milieux un peu assez réalistes et tout ça. Le Médecins de campagne, c'était sur les déserts médicaux, Hippocrate sur les hôpitaux. Donc des milieux quand même assez réalistes où il veut vraiment raconter quelque chose de la société actuelle comme ça, là-dessus, comment ça se passe ça en ce moment. Mais au travers de ça, dans Hippocrate, par exemple, c'est une histoire d'amitié aussi, avec le personnage de Reda Kateb, qui joue un FFI. FFI, c'est les médecins étrangers qui viennent exercer en France et où il n'y a pas d'équivalence de diplôme. Et en fait, il voulait aussi raconter ça, quoi, à la fois un truc de, un peu d'injustice et tout ça, et en même temps d'amitié.
Ça signifie que, par exemple, dans les moments de préparation avec Thomas Lilti, vous évoquez ça, y compris jusqu'à des questions extrêmement politiques, d'actualité, de numerus clausus, de manière dont fonctionnent les études, ou c'est vraiment pas le lieu du travail pour vous ?
Oh non, pas du tout. Après, à vrai dire, c'est marrant parce que le moment où on se pose la question de qu'est-ce que raconte le film et tout ça, en fait, quand on lit le scénario, on le voit bien. On fait les trucs, on est dans nos personnages et tout ça, donc on voit bien ce que ça raconte. Mais le moment où on se pose le plus de questions sur le film tel qu'il est et où on le voit un peu différemment, paradoxalement, c'est la promotion en fait, parce que avant, personne nous demande ah ouais, alors qu'est-ce que t'en penses de la première année.
Peut-être lui-même avec lui-même quand même, Thomas Litty.
À un moment donné, bien sûr.
Peut-être qu'est-ce que j'ai envie de raconter, sinon c'est dangereux.
Ah bien sûr, oui, mais nous ne sommes que des acteurs.
Et alors, ça vous concerne moins ?
Ça nous, bien évidemment, ça nous concerne, mais ce que je veux dire, c'est que on se pose moins de questions. Moi, quand j'ai vu le scénario, bien sûr, je me suis dit, ah ouais, sur la première année de médecine, c'est extrêmement violent, compétitif. On s'est posé des questions, puisqu'on s'est un peu, on a discuté avec des gens qui avaient fait médecine, on s'est quand même intéressé à ce sujet-là, et puis on était entouré par les figurants qui étaient constamment des étudiants en médecine, donc on était vraiment dans ce monde-là. Mais ce que je veux dire, c'est que, la réflexion, paradoxalement, elle se construit après, en fait.
Quand on vous pose des questions et qu'on vous demande de quoi parle le film, quel est le rapport avec la société, exactement ce qu'on est en train de faire, en fait.
Ben un peu, en fait. Je découvre en même temps que vous ce que je pense du film. Non, c'est... pas exactement, mais un peu, ouais, c'est vrai. Par exemple, sur le concept d'amitié impossible, de trucs, machin, c'est, on a conscience, mais on se le formule pas, en fait, c'est surtout ça.
C'est un moment que vous aimez bien, ce moment de promotion, où vous devez parler de ce film-là à peu près 4, 5 fois, 6 fois par jour pendant un moment, parfois répéter des choses que vous avez déjà dites hier ou il y a 2 heures.
Bah, après, ça dépend, très sincèrement, ça dépend des émissions, les choses. Ce qui est assez ennuyant, c'est ce qu'on appelle les press junkets, c'est-à-dire on est dans un hôtel, globalement, il y a énormément de gens qui se succèdent, pas parce que les gens sont pas bien ou quoi que ce soit, c'est que c'est souvent les mêmes questions, et en général, il y a 15 minutes d'interview et ça se succède toute la journée, et ça, bon, c'est un peu... C'est un peu ennuyeux, mais là, par exemple, par exemple, j'ai un temps de parole. C'est-à-dire, je suis une heure avec vous. On est tous les deux à la radio. On discute et il y a le temps de s'exprimer. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans des émissions télé ou des trucs comme ça, où le temps de parole il est moindre et c'est plus un espèce de show un peu qu'un endroit pour parler d'un film. Quoi.
Ça veut dire qu'il faut être aussi comédien ou il faut être autrement comédien dans ces moments-là, par exemple, d'exister. On sait qu'on a 7 minutes pour exister de manière assez efficace sur un plateau de télé. Être aussi dans son art de comédie, voire de théâtre.
Ouais, mais bien sûr. Non, mais mine de rien, on n'est pas totalement naturel quand on est à la télé. Hein. C'est-à-dire, déjà, c'est assez stressant quand même, la télé. Et on a un peu l'obligation d'être spirituel directement, ou marrant, ou voilà, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, on est extrêmement déprimé, mais on n'a pas envie d'y aller, ou alors on est stressé, ou machin. Et en fait, là, c'est différent, ouais. Mais on n'est pas du tout naturel, ça, c'est sûr. En fait, les gens pensent qu'il y a un truc de naturel, genre, ah, il est détendu, ou alors, ah là là, qu'est-ce qu'il y a.
Et en fait, c'est composé.
C'est pas que c'est, oui, on se force, en fait. Parce que si on a l'air extrêmement timide et ou fatigué, ou machin,
Vendeur.
C'est pas vendeur, exactement.
Par curiosité, c'est marqué sur les contrats des comédiens qu'on doit assurer la promotion d'un film, par exemple ?
Il y a pas d'obligation, mais en tout cas, on s'engage. Après, ça rentre pas dans les détails. C'est-à-dire, il n'y a pas écrit vous devez faire telle émission, machin. Il y a écrit faites de la promo, s'il vous plaît. Quoi.
Tu pars de chez toi à 7h pour pouvoir t'asseoir dans les transports. Là, tu bosses direct, par exemple, ton cours d'embryologie. Quand t'arrives, tu vas directement prendre une place à la bibliothèque. Après, en général, tu restes à la fac jusqu'à 22h. Comme ça, tu peux encore réviser pendant ton trajet de retour. Ce qui compte, c'est ton état d'esprit. Chaque fois que tu as envie de pleurer, tu mets ça dans une boîte et tu te dis que tu ouvriras après le concours. Bah, t'as de grandes chances d'échouer, mais il faut que tu t'acharnes, tu fais le Jedi.
Ouais, mes parents, ils m'ont pris une piole à côté de la fac.
Hein ? Mais c'est cool.
Et il y a beaucoup de triplants ?
Moi, je suis le seul cette année. J'ai une dérogation. L'année dernière, je suis passé à ça d'abord. J'aurais pu aller en dentaire, mais ça me faisait... J'étais devant le doyen, tu sais ce qu'il m'a dit ? Que même si ma mère était morte le jour du concours, ça aurait pas été inexcusable. Là, j'ai pris une tête de fou, et j'ai menacé de me jeter de la fenêtre du 7e. C'est comme ça, sur le bord de la fenêtre. « Ah, je vais me jeter, je vais me jeter !»
Bah, sérieux ?
Non. Non, j'avais fait faire un méga dossier avec certificat médical et tout ça.
C'est con, parce que... Mon père, il était à la fac avec le doyen, ils se connaissent bien. Du coup, je pense que si on s'était connus avant, il aurait pu t'aider.
On est médecin ?
Ouais, chirurgien viscéral.
Ah ouais ? Mmh. Ah, classe.
Et voilà, c'est pas anodin que ça se dise sur un fond de resto universitaire et la bouche pleine parce que le copain d'Antoine aime énormément manger. Et ça fait partie d'un des gimmicks assez comiques qui revient jusqu'à la fin du film, et d'ailleurs de manière assez émouvante à la toute fin du film, Vincent Lacoste. En fait, tout est dit dans cette séquence des autres choses que voudrait raconter Thomas Litty, c'est-à-dire, par exemple, la différence de classe, la différence de prédestination, pourquoi on fait les choses qu'on a envie de faire, quels sont les moyens qu'on a pour faire les choses qu'on a envie de faire. Est-ce que vous le sentez quand vous jouez cette scène-là ?
Ouais, bien sûr. Enfin, est-ce que je le pense. Après, bon, à vrai dire, c'est ça qui est assez marrant, c'est que quand on joue une scène, tout le monde dit machin, il faut se préparer, on a réfléchi à son personnage et tout ça, mais pendant une prise, globalement, on pense à rien. On pense à son texte et globalement à rien. Mais après, c'est vrai que cette scène, ça marche ou pas. Des fois, on est mauvais, hein, mais des fois, et ensuite, on la refait, et voilà, quoi. Mais c'est pas ça. C'est qu'il y a un espèce de truc où, pendant une prise, bon, c'est le moment où on est censé lâcher prise, quoi. Donc, en fait, on réfléchit un peu plus à rien. C'est assez marrant, d'ailleurs, hein, et c'est ça qui est excitant et qui est génial dans ce métier.
C'est comme une sorte de moment de blackout, un peu, quoi. On fait que ce qu'on nous a dit de faire très, très précisément, et on essaie de faire le mieux possible.
Ou moins précisément, hein, tout dépend ce qu'on vous a dit avant, ou même il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui disent rien. Il y en a qui sont très directifs, qui disent « mets-toi là, machin ». Là, par exemple, il est assez libre, il y avait le texte, et voilà, il m'a laissé assez de liberté, on a fait quelques prises, et puis voilà. Après, oui, sur les prédestinations et tout ça, oui, le film, je pense qu'il voulait vraiment parler de ça, mais il voulait parler de ça d'une manière peut-être comme peut-être un élément de réponse à quelque chose, mais sans avoir la réponse, en fait. C'est-à-dire que voilà, le film a un petit côté Bourdieu, quoi. C'est-à-dire il parle un peu des héritiers, quoi. C'est-à-dire à quel moment on est avec les mêmes chances, en fait, là-dedans, quoi. C'est-à-dire, est-ce que si on est dans une famille d'universitaires où il y a énormément de gens qui sont habitués à faire des études, on assimile des codes par rapport à quelqu'un qui est entouré de gens qui n'ont jamais fait aucune étude, quoi. Et c'est un peu ça, et c'est un peu la première année de médecine, c'est un peu bizarre pour ça, quoi, parce que, c'est-à-dire, les questions, elles sont totalement absurdes, elles servent absolument à rien dans la suite des études de médecine. Ce qu'on apprend la première année, ça sert à rien après. Et c'est vraiment la seule chose, ça consiste uniquement à apprendre le maximum d'informations possibles et les recracher. Donc déjà, ça forme à être compétiteur, ce qui est l'inverse de d'être un médecin. Et aussi, il y a un truc où ça sélectionne pas les gens qui ont vocation spécialement à être médecin, ça sélectionne des gens qui ont les codes pour réussir dans les études, quoi. Et d'ailleurs, en deuxième année, il y a 50% d'élèves qui ont au moins un des deux parents médecins, quoi.
Est-ce que vous avez procédé un peu de la même façon que les étudiants de médecine, en devant avaler des choses pour des répliques où vous devez parler de science et vous devez parler de... Parce que vous révisez, quoi. Vous révisez avec votre copain,
ouais,
dans la fiction. Et du coup, vous avez dû aussi avaler des choses que vous ne compreniez pas, j'imagine. Enfin, je sais pas, les...
Ah oui, bien sûr.
Certains trajets nerveux, ouvertures et fermetures de...
Oui, je comprenais rien. Oui, bien sûr.
Donc non, ça, par exemple, dans un moment pour un comédien, c'est un peu particulier. D'habitude, vous comprenez à peu près ce que vous racontez.
Oh, pas toujours.
Pas toujours.
Si, si. Non, oui, c'est vrai que c'est particulier parce que... après, c'était vraiment des scènes de révision, donc c'était pas très compliqué parce qu'on avait le droit de chercher le texte. Étant
donné et d'annonner un peu.
Voilà, ouais. Parce qu'on était censé être en train de l'apprendre. Donc, mais en effet, on comprenait rien du tout à ce qu'on racontait, quoi. C'est-à-dire, c'était des formules chimiques, des trucs, c'était assez marrant d'ailleurs, mais c'était comme si on jouait dans une autre langue. Ça n'avait aucun sens. Voilà, mais c'était le principe du film. D'ailleurs, il y en avait beaucoup plus, on a tourné bien plus qu'il y en a dans le film. Il y a des scènes un peu musicales comme ça, où on nous voit parler au loin, et là, on est en train de déblatérer des trucs de chimie et tout ça, mais énorme, quoi. Des fois, il se ramenait, Thomas, le matin, avec des petits papiers en disant « Tiens, voilà, tu vas me lire ça ». Il avait pris des extraits de bouquins de chimie ou d'anatomie, on devait dire tout ça, quoi.
Peut-être ça vous rendrait presque plus crédible. C'est-à-dire que vous étiez, vous aussi, des jeunes hommes qui annoncent des choses qu'ils n'ont pas très, très bien compris.
Exactement. Exactement. On n'avait absolument rien à faire.
Dans cette scène au restaurant, vous êtes donc avec William Lebgill. Ce n'est pas la première fois que vous jouez avec lui. Ce n'est pas la première fois non plus que, finalement, cette histoire d'amitié, elle se voit à l'écran. Ça, c'est pareil. Retrouver quelqu'un d'un film à un autre en ayant éventuellement une complicité, c'est quelque chose qui est... agréable, qui se traduit comment sur le tournage, comment ça s'est passé?
Ça c'était très agréable. C'est toujours plus agréable de faire un film avec son ami qu'avec quelqu'un qu'on déteste, quoi. Même si on le déteste pas, ou quelqu'un qui est un peu chiant et qui en a pas trop d'affinité, ça c'est assez ennuyeux, quoi.
Ouais, donc en fait ma question en elle-même est assez ennuyeuse.
Ah non, absolument
pas.
Ah bon ?
Non, parce que je me disais, en fait, c'est vrai que c'est un peu bébête comme question.
non, absolument pas. Non, mais parce que, non, en effet, ça aide pas mal, en fait, parce que, notamment quand on doit jouer une relation amicale, quoi, parce qu'en fait, forcément, on est proche et donc on n'a pas, comment dire, on est plus à l'écoute, on est plus, il y a un truc de simplicité, en fait, quoi. On se connaît, on se fait confiance et puis on se sent aussi épaulé, quoi. C'est-à-dire, des fois, quand on est stressé, tout ça, on peut en parler, on peut machin. Mais votre question était parfaitement intéressante.
Moi je me suis dit, en fait, c'est complètement bête de demander à quelqu'un si c'est plus sympa de jouer avec un ami ou pas.
Oui, bah, bon.
Non, mais si on dit vraiment la vérité, c'est un peu idiot comme question.
Non, parce qu'on peut se dire, ça peut être embarrassant de connaître bien une personne et tout ça. En fait, non, en fait, pas du tout, quoi. En fait, absolument pas, parce qu'on se fait confiance. Ou en tout cas, ça dépend des amis aussi. Avec William, on s'est rencontrés quand même en jouant dans un film, donc on a l'habitude de jouer ensemble. On s'est rencontrés pour Jacques Hiroum des filles de Riyad Satouf, et en fait la première fois qu'on s'est rencontrés, on a fait des essais pour Jackie et on a tout de suite joué ensemble. Donc en fait, mine de rien, ça fait partie de notre amitié aussi. Après, on joue pas tout le temps dans la vie, quoi. Dans la vie, on est normaux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc qui est normal dans notre amitié et qui fait partie de ça. Donc à partir de ce moment-là, c'est pas stressant. Par contre, si on rencontre quelqu'un d'autre et tout ça, par, je sais pas, quelqu'un qui est pas acteur, je ne sais quoi, peut-être il peut y avoir une gêne ensuite à se retrouver à jouer ensemble. Mais en général, ça part assez vite.
Tu veux éliminer la concurrence ? Enfin, je veux dire, tu prends tous les bouquins pour éviter que les autres puissent bosser, c'est ça ? C'est une blague, hein. Tu veux qu'on bosse ensemble?
Vas-y, bouge, me parle
pas. Non, mais calme-toi.
Arrête, ne me touche pas.
Mais qu'est-ce qui te prend, là?
Ferme ta gueule.
Vous pouvez pas vous taire?
Ouais, pardon, excusez-nous.
Un sale faillot.
Bon, vous deux, vous sortez. Allez, et vous me donnez vos cartes. Je viendrai les récupérer dans une semaine, quand vous serez calmés. Allez, vos cartes.
Oh!
Ça va, on peut discuter deux secondes là. T'as fait exprès? Ça te fait marrer que je me fasse virer de la BU? Ah, tu vas m'empêcher de réviser, c'est ça? Ça t'a pas suffi de te servir de moi?
Attends, t'es hyper bien classé. T'as toutes tes chances, même plus que moi, alors arrête!
Je vais faire des annales, fils de pute, ouais.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foutent la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Par les temps qui courent, par Marie Richeux sur France Culture.
Elle est vraiment trop belle, cette chanson d'Anne Sylvestre.
Ouais, elle est jolie. Ouais.
Elle est tirée d'une bande originale, d'un film de Christophe Honoré dans lequel vous avez joué, Vincent Lacoste. Et juste avant, on entendait un des moments bascules du film Première année Thomas Lilti, où d'un seul coup, rien n'est exactement simple pour votre personnage. Il y a trop de pression, il y a trop de quoi.
Il y a trop d'échecs surtout, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y arrive pas, quoi. Étant donné que c'est le seul moyen de devenir médecin, en fait, c'est au bout d'un moment c'est désespérant, parce que il travaille tout le temps, globalement, vraiment tout le temps. On le voit dans le bus pour rentrer chez lui, il travaille le matin sous la douche tout le temps, et il arrive pas à être bien classé. Donc au bout d'un moment il y a une forme d'injustice qui est insupportable, quoi, parce que voilà, quand on travaille énormément, on s'attend à ce que ça paye. Et puis surtout, la majorité des gens qui font ces études-là, ils sont pas pris, en fait. C'est-à-dire, ils font la première année, la deuxième, et puis ensuite ils sont pas pris. Et ensuite ils doivent faire autre chose, quoi.
Donc c'est un peu déprimant. Et du coup, ils se demandent qu'est-ce qu'il peut faire de plus, en fait. Il a plus de
beaucoup de force. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Comment il peut mieux y arriver? Donc forcément, après, il pète un peu un câble, parce que bon, il réagit pas de la meilleure des façons, mais il y a un truc de désespoir un peu total, quoi. C'est-à-dire, c'est le seul moyen de devenir médecin, quoi. Enfin, c'est-à-dire, il a son rêve qui est de devenir médecin, et en fait il arrive pas à faire ce concours stupide, et ça va gâcher sa vie, en fait, quoi.
Est-ce que c'était facile à trouver, ce moment où vous partez d'un personnage qui est le triplan, qui a tous les codes, qui sait exactement comment ça se passe à l'université, et puis d'un seul coup, non, c'est celui qui foire, qui retourne chez ses parents, qui doit dormir parce qu'il est fatigué, voire qu'il est hospitalisé. La crédibilité de ce tournant-là, c'était simple à trouver?
Oui, parce qu'en fait, il était là dès le départ, je pense. Moi, je voulais le mettre dès le départ, qu'on le sente pas, mais bon, qu'on sente qu'il est un peu fragile, quoi, le personnage, quoi. Mais dans sa manière de travailler, dans sa manière d'être, de travailler en permanence, il y a un truc un peu névrotique, quoi. C'est-à-dire que il s'impose un tel truc que forcément, quand quelqu'un s'impose un rythme pareil, à un moment donné, il y a un truc qui switch, et qui est, parce que c'est pas humain, en fait.
Tout à l'heure, vous disiez, bon, on travaille de cette manière-là, et donc finalement, le doute pendant la prise, on ne l'a pas. On fait ce qu'on a à faire, et puis peut-être c'est bien, ou peut-être c'est pas bien. Alors, il arrive quand, le doute, s'il arrive dans votre travail de comédien?
Le doute, il arrive avant, beaucoup. Moi, je suis très stressé avant, parce que j'ai constamment l'impression que je ne vais pas y arriver, que voilà, de pas être crédible, mais parce que avant, c'est assez angoissant, les moments.
Avant, c'est juste avant la prise ou avant?
Avant les tournages, avant les tournages. Non, parce que pendant le tournage, on est dans une dynamique où, de toute manière, on fait les choses. Donc, en fait, on peut être angoissé un matin ou un truc, mais ensuite, on fait la prise et ensuite, on la finit et voilà. Mais moi, c'est surtout avant les tournages, parce que avant les tournages, on est un peu, comment dire, on sait que ça approche, on n'a pas grand chose à faire non plus, donc on se prépare tout seul dans son coin, mais en fait, le moment où ça devient concret, c'est le moment où on est sur le tournage, parce qu'avant ça, on peut faire tout le travail qu'on veut, l'angoisse, ça ne passera jamais, parce qu'en fait, ça passe en faisant les choses, quoi. Et donc, c'est assez stressant, mais je pense que c'est un vrai truc de, voilà, d'acteur, hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très stressés. Moi, du coup, j'apprends mon texte, j'apprends tout le film avant, en fait, en général. Si j'ai le temps, j'apprends tout avant, et comme ça, ensuite, ça me détend un peu, quoi. Parce que comme ça, en fait, au lieu de penser à quelque chose, à des angoisses et tout ça, du coup, je pense à mon texte, en fait, quoi. Et je me le répète dans la tête en permanence.
J'aime être seul, je n'aime pas être dans aucun système au monde, je n'aime pas être intégré. Je suis un animal, je suis comme un loup, je vis en meute ou en clan ou en bande, point à la ligne. J'ai mon clan, j'ai ma bande, j'ai ma famille, le reste c'est autre chose. Mais c'est pas maintenant, j'ai toujours été comme ça. Pourquoi? C'est très simple. Comme je vous ai dit, le cinéma est venu à moi. Et je ne suis jamais allé au cinéma. Parce que j'estime et je considère que dans ce métier-là, je suis un accident, ce que j'appelle un accident. L'accident, c'est quoi? C'est la jeune fille qui se promène dans les boulevards, Champs-Élysées ou ailleurs, ou le jeune homme auquel un metteur en scène vient. Arrête, mademoiselle, qui êtes-vous? Vous êtes exactement le personnage que je cherche. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Mais je n'ai jamais été fait pour faire du cinéma. Ça n'est pas mon métier. Je n'ai jamais eu envie de le faire. C'est pas, ça n'est pas ma mentalité. Ça n'est pas ma vue des choses. Je ne suis pas bien dans ce milieu. Depuis 30 ans que je fais ce métier, je n'ai aimé que le mot moteur et coupé. Et tout ce qui se passait entre ces deux mots-là. Le reste ne m'intéresse pas. Le reste n'est pas, ne correspond pas à ma personnalité, à mon tempérament, à mon caractère. Vous comprenez?
Vous comprenez? Vous comprenez, ouais, Vincent Lacoste, 1995, Alain Delon. J'ai jamais été vers le cinéma. C'est lui qui est
J'ai
venu.
J'ai copié ce qu'il disait.
Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? 1995, voilà, j'ai pas. C'est le cinéma qui est venu à moi. Je suis jamais allé au cinéma. Moi, je ne vis que pour ce qu'il y a entre action et coupé. Le reste,
oui,
ne m'intéresse pas.
Ouais, d'une certaine manière, oui. Sauf que moi, je m'intéresse au cinéma, quoi. Même avant ça, je m'intéressais au cinéma. Moi, j'aimais beaucoup regarder des films, mais parce que mes parents, ils étaient très cinéphiles, du coup, il y avait plein de DVD de cassettes plutôt à la maison, et j'avais l'occasion de regarder plein de choses, en fait. Donc j'aimais déjà le cinéma. Après, en effet, j'ai pas choisi, j'ai été au casting, mais c'était un hasard total, c'est-à-dire je voulais pas être acteur. Je savais pas ce que je voulais faire, j'étais au collège, donc.
Vous aviez le temps pour savoir quand même.
Oui, voilà. J'avais le temps pour savoir, mais en tout cas, je pense que très sincèrement, jamais, si je n'y avais pas eu le casting des beaux gosses comme ça par hasard, jamais j'aurais eu l'idée d'être acteur, quoi. Parce que c'est, ouais, j'avais pas l'impression que ça soit quelque chose pour moi. Moi, j'étais assez timide, assez réservé, assez. Enfin, ça me semblait pas du tout naturel. Et puis surtout, je connaissais absolument personne qui faisait du cinéma, ni de près ou de loin. Donc ça me paraissait vraiment très très loin comme monde, très fermé, donc j'aurais jamais eu l'idée.
C'était à peu près il y a 10 ans, vous vous imaginiez comment? Ça vous arrivait de vous figurer à 25 ans
Non, franchement pas du tout. Pas du tout, parce que j'étais, bon, globalement, j'étais en troisième, j'étais assez... j'étais un adolescent à peu près normal, j'essayais de sortir avec des filles sans grande réussite, J'étais assez timide, j'étais moyen à l'école. Vraiment, je sais pas du tout ce que j'aurais fait, quoi. Ma seule problématique, c'était de passer en seconde, en fait, quoi. C'est ça, la réalité.
Comme beaucoup d'adolescents de troisième.
Comme beaucoup d'adolescents de troisième, ouais. Bah oui, parce que, en fait, on voit pas, on se figure pas ce qu'on va devenir, sinon c'est trop angoissant. C'est-à-dire, il y a tellement de possibilités, quoi, que c'est trop angoissant. Même ensuite, je pense, est-ce que j'aurais été capable de répondre à qu'est-ce que tu veux faire quand j'avais 18 ans si j'avais pas fait de cinéma? Franchement, je sais pas, j'aurais peut-être toujours cherché toute ma vie ce que je voulais faire, quoi.
Comme beaucoup de jeunes hommes de 18 ans,
comme
ou plus?
Comme beaucoup de gens, je pense, ouais. De 18 ans et de tous les âges, je pense qu'il y a des gens qui savent jamais ce qu'ils veulent faire. En fait, ils prennent une voie parce que c'est celle qui a l'air tracée, et voilà, celle qui a l'air la plus simple, et qui veulent, qui suivent des pas, qui... Mais c'est dur de savoir ce qu'on veut faire, tout simplement parce que on sait pas à quoi ressemble le quotidien d'un métier, en fait, quand on l'a pas fait. C'est ça, la réalité. Moi, si, enfin, acteur, je sais pas, moi, acteur, il aurait fallu que j'ai envie d'être dans la lumière, d'avoir du succès. Enfin, c'est ça, en fait, d'avoir du succès, d'être, en fait, moi, j'avais pas vraiment cette envie-là. C'est ça, la réalité. J'avais pas envie d'être connu, par exemple. J'avais pas envie de dire des textes. Ça m'est venu après, quoi. Enfin, après, j'ai pas eu envie d'être connu, mais en fait, c'était. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour être acteur? Soit on est fan de théâtre ou de cinéma. Moi, j'étais fan de cinéma, mais à la limite, je m'intéressais pas spécialement aux acteurs, quoi. Je les aimais bien, mais j'ai jamais été extrêmement fan d'un acteur avant de commencer à en faire. Bah, franchement, qu'est-ce qui m'intéressait? Un peu rien, en fait, quoi. C'est la réalité. Si, j'aimais bien dessiner.
Non, qu'est-ce qui vous intéressait dans le cinéma si c'était pas les acteurs?
Ah, dans le cinéma, c'était Je me sentais, ça me faisait, je sais pas comment dire, ça me touchait particulièrement. Il y avait un truc, mais c'était pas le jeu des acteurs ou c'était pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'aimais bien les acteurs, mais c'était pas focalisé là-dessus. Je me disais pas, ouais, je me vois comme ça devant une caméra, c'est moi et tout. Je voyais pas ça. J'aimais bien les films. Je sais pas. Il y a des moments dans ma vie où j'ai, où il y a des films qui m'ont fait beaucoup de bien, ou même il y en a qui m'ont fait rire. Je sais pas, le cinéma, je me dis, c'est quand même assez magnifique, quoi, parce que moi, c'est un truc qui me rassure, par exemple. C'est-à-dire, je peux, peut-être dans quelques années, je travaillerai plus, ou je sais pas ce qui va m'arriver, ou un truc. Ou, enfin, peut-être que ça va marcher, hein, j'ai quand même espoir, mais s'il s'avère que, voilà, ça marche plus et que je suis triste et tout ça, je suis déprimé, je me dis, au moins, je pourrais toujours regarder des films, quoi. Et en fait, il y a, c'est-à-dire, on peut toujours s'identifier à une histoire dans un film de cinéma. Il y a forcément un film qui va vous toucher, qui va vous rassurer par rapport à vous, quoi qu'il vous arrive, quoi.
Je disais en introduction que c'est pas facile de faire la lumière sur ses désirs, et première année, c'est un peu aussi une sorte de film qui raconte ça. C'est pas facile de savoir pourquoi on fait les choses. Benjamin, à un moment donné, il y a un tournant dans le film où il dit peut-être que je n'embrasse pas ces études de médecine pour les bonnes raisons. Peut-être qu'en fait j'attends autre chose. Peut-être que j'attends un coup de fil de mon père fier plutôt que un bon classement ou des bons résultats la première année. Vous, le cinéma, c'est devenu ce que vous avez envie de faire. C'est clair. C'est là que vous avez envie d'être.
Bien sûr. Mais c'est une chance. Hein. Mais la chance que j'ai eue, c'est d'avoir l'occasion de le faire avant ça, en fait, quoi. Parce que ensuite j'ai commencé
à le faire avant de savoir que c'était ce que vous aviez envie.
Ouais,
de faire.
Voilà, c'est ça. J'ai découvert que je voulais faire ça en le faisant, en fait. Parce que moi, même quand je suis arrivé sur le tournage, je me suis pas dit, ok, c'est bon, maintenant je fais un film, je vais devenir acteur. Non, c'est en voyant le plaisir que j'ai pris, la liberté que j'avais, vraiment, je me suis rendu compte que c'était un plaisir absolu de faire ce métier. Et je me suis dit, ça serait génial de faire ça parce que j'ai pas l'impression de travailler, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc qui est passionnant, quoi, voilà. Donc mais ça, c'est une chance, parce que je pense c'est ça la majeure partie des gens, malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de tester un métier avant de pouvoir le faire, puisque, et notamment, c'est comme quand vous faites des études supérieures, par exemple, ça vous demande un travail. Tous les gens qui font des prépas, des trucs, des moi, ma sœur, elle est dans une grande Dauphine, ça demande une dose de travail incroyable, et en fait, mais même pas seulement à Dauphine, toutes les études supérieures, ça demande un boulot de dingue incroyable pour au final mener à quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on fait ces études là que ensuite on sait mieux ce qu'on veut faire, quoi.
Ni qu'on est heureux et qu'on prend du plaisir pour
reprendre. Ouais, exactement. Parce qu'on se spécialise, les études supérieures, c'est ça, c'est au début c'est assez large, ensuite on spécialise, et ensuite on arrive sur un truc, mais à quel moment c'est pas par défaut, quoi. À quel moment c'est parce que les autres choses nous plaisaient pas, et que du coup on fait ça, et ensuite on se retrouve à faire un métier, et certains sont très heureux, mais admettons, en faisant le métier, on se rend compte que ça nous ennuie. Bah, c'est assez dur, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a énormément de gens qui reprennent des études plus tard et tout ça, qui se rendent compte qu'ils font pas ce qu'ils aiment, quoi.
Mais vous ennuyez pas au cinéma, jamais?
Moi, je m'ennuie pas du tout, non. Mais c'est moi, je suis extrêmement heureux pour ça, c'est que après, je suis stressé, je suis angoissé de plein de choses, parallèlement, je suis extrêmement heureux de ce que je fais et épanoui dans ce que je fais, quoi. Et les moments où je suis plus heureux, à vrai dire, c'est quand je suis en train de jouer dans un film, quoi. C'est la vérité.
J'ai toujours pensé que l'expression direction d'acteur était une expression qui était employée couramment sans que les gens qui l'emploient sachent exactement ce que cela veuille dire. Être metteur en scène, c'est être responsable, un peu comme le capitaine sur un voilier. Les décisions doivent être prises et il n'y a qu'une personne qui peut les prendre. Vous devenez tout d'un coup celle à laquelle on ne fait que poser des questions toute la journée et auxquelles il faut répondre immédiatement. Mais la direction, en fait, c'est être disponible, être à la disposition des autres qui sont là pour vous aider à fixer votre imaginaire, qui doit devenir un film. C'est avoir suffisamment de force pour être sensible à leurs demandes, à leurs exigences, pour pouvoir les aider à aller vers ce qu'ils ont de mieux, dans ce qu'il leur est possible de faire, Et c'est pareil avec les comédiens et les comédiennes. C'est simplement créer autour d'eux un climat qui fait qu'ils ont envie de s'ouvrir et qu'ils n'ont plus peur. Parce que le propre de tous les gens qui font quelque chose, c'est la peur. Et quand j'entends « mauvais comédien », « mauvaise comédienne », ça me met en colère. Il n'y a pas de mauvais comédien, il n'y a pas de mauvaise comédienne. Il y a des gens qui, tout d'un coup, se sont refermés à cause de la peur et qui finissent par n'exprimer que la surface des émotions. Mais pour pouvoir aller au fond des choses, il faut être accompagné de quelqu'un qui vous aime, qui vous regarde. Et à ce moment-là, on va chercher au fond de soi des choses bien cachées qu'on n'aimerait peut-être pas tripoter tous les jours. Et alors là, tout d'un coup, la source jaillit. Et de là naît ce qu'on appelle des interprétations exceptionnelles. Parce qu'elles ont un contact direct avec la vie. Et que même si vous, spectateur, vous n'avez pas expérimenté cette vie, il y a tout d'un coup une émotion vitale, profonde, qui est celle de l'être humain, à laquelle vous vous reconnaissez.
Bon, quel que soit votre métier, si vous écoutez cette émission de radio, Jeanne Moreau vous parle depuis 1976 et vous allez forcément mieux, parce que faire quelque chose, c'est avoir peur, dit Jeanne Moreau.
Ouais.
Bon, déjà moi je suis vraiment très émue et très heureuse d'entendre la voix de Jeanne Moreau. Et puis surtout, ça nous permet de parler avec vous, Vincent Lacoste, de ce qu'elle décrit comme étant la direction d'acteur. Vous avez la chance d'avoir déjà travaillé avec plein de gens différents, plein de réalisatrices, plein de réalisateurs, et avoir des partenaires différents. Et donc j'imagine aussi de ce qu'on appelle des directions d'acteurs différents. Ce qu'elle dit, elle, de avoir quelqu'un qui vous regarde avec amour, avec disponibilité, trouver quelqu'un qui vous rassure, c'est à peu près ce que vous avez rencontré chez les gens avec qui vous avez travaillé.
Ouais, carrément, ouais. Bah, c'est, je dois dire, elle a parfaitement raison, quoi, parce que... en fait, quand il y a vraiment un bon directeur d'acteur, on a l'impression d'avoir rien à faire, quoi, parce que on se sent tellement libre et tellement aimé, quoi, que c'est d'une simplicité incroyable. Honoré, par exemple, il met Christophe Honoré, il met vraiment dans cette condition-là, parce qu'il y a un côté où il aime tellement les acteurs, quoi, que je sais pas comment dire, il crée une ambiance où en fait vous vous sentez extrêmement somptueux, quoi.
Mais ça passe par quoi ? C'est-à-dire qu'il est pas en train de dire Vincent, t'es vraiment magnifique, tourné, ou Vincent, t'es tellement intelligent, on tourne ?
Non, non, c'est pas ça. Certaines personnes ont ça, par exemple. Justine Triet, qui a fait Victoria, elle est un peu comme ça, quoi. Elle est un peu genre, elle dit, waouh, c'est incroyable. On fait une première prise, et en fait, elle est pas si incroyable, la première prise, je suppose, mais elle dit, waouh, là, mais c'était incroyable. C'était exceptionnel. Là, t'étais un génie absolu, là. Waouh. Et ensuite, du coup,
avec t'es, humour ou très, très premier degré?
Mais assez premier degré, en fait. Du coup, ensuite, on se sent extrêmement, on se sent extrêmement bien. Et ensuite, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et Honoré, non, Honoré, c'est plus, enfin, Christophe Honoré. Je l'appelle pas Honoré dans la vie, hein. Je l'appelle
peut-être Christophe.
Mais bon. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est, je sais pas comment dire, il met dans une, en fait, c'est particulier, c'est, on sent qu'il vous aime, quoi. Je sais pas comment il arrive à faire ça, en fait, mais on sent qu'il vous habille d'une certaine manière pour que vous vous trouviez beau et que lui il vous trouve beau. Ensuite, il a une manière extrêmement douce d'arriver aux choses, de le travail est tout le temps léger, tout ça, parce que voilà, et ça, en fait, il aime bien regarder des acteurs et des actrices, quoi. C'est-à-dire quand on fait une prise, il est surpris, mais en fait, c'est assez marrant, quoi. Il rigole, il est toujours joyeux et tout. Enfin, c'est génial, quoi. On sent que c'est ça qu'il aime faire, et donc c'est génial, parce qu'en fait, ça met dans un état où on a envie de lui faire plaisir, en fait.
J'allais venir à ça, finalement, parce que, et vous, et Jeanne Moreau, vous utilisez ces grands mots-là, qui sont les mots d'amour. C'est particulier dans une relation de travail, de se dire, bah, en fait, pour que je fasse bien mon travail, il faut que cette personne la m'aime. Et en retour, peut-être qu'il faut que je l'aime un peu aussi.
Bah, bien sûr.
Ça veut dire que faire ce travail-là, c'est se débrouiller pour être aimé, pour aimer. Bon, c'est que ça, quoi. C'est que des histoires d'amour, en fait.
Bah ouais, un peu, ouais. Non, mais la réalité, un peu.
Mais pour
ouais.
De vrai, hein.
Non, franchement, mais oui, parce que y a,
filmé,
c'est un métier.
C'est forcément être
c'est un
aimé.
Métier. Non, mais c'est un métier assez étrange, qui en effet, il y a la peur qui est présente en permanence. Donc en fait, comment on fait pour rassurer quelqu'un? ben on le rassure et que quelqu'un est rassuré quand il se sent aimé. Le problème de chaque acteur et de chaque actrice, c'est qu'à un moment donné, il arrive devant une caméra et sa peur, c'est de ne pas être aimé parce qu'il a peur d'être mauvais ou de pas être bien. Et ça, c'est à n'importe quel moment de toute sa vie, parce qu'en fait, enfin, j'ai l'impression, j'en sais rien, j'ai pas la science infuse, mais j'ai l'impression que ça ne passe jamais, parce que il y a forcément, même si on est admiré, si on a du succès, tout ça, il y a forcément un moment donné où il y a une possibilité de ne plus être aimé, quoi. Donc ça, c'est extrêmement violent, parce que à ce moment-là, on a peur en permanence, quoi, parce que quand mais pour n'importe quel acteur, c'est-à-dire que en fait, le métier d'acteur, c'est de se montrer quand même, c'est-à-dire de se montrer, de d'essayer de faire de retranscrire des émotions, de faire des choses comme ça, mais c'est de se montrer et d'être mis en avant, quoi.
Ce qui est absolument effrayant.
Ouais, ce qui est extrêmement effrayant. Ouais. C'est très effrayant parce que quand on se met en avant, les gens disent ce qu'ils pensent de vous, quoi. Et donc à partir du moment où les gens disent ce qu'ils pensent de vous,
on a le risque que ce bien, soit
ouais. Que ça soit négatif, voilà. Donc c'est pour ça en fait que tout le monde parle constamment d'amour et de se sentir aimé, quoi, parce que c'est un espèce de truc c'est le propre du métier de comédien, quoi. Un acteur, un grand acteur ou une grande actrice, c'est quelqu'un qui est aimé, en fait, quoi. C'est tout. Et d'ailleurs, vous l'avez dit en entendant parler de Jeanne Moreau, vous avez dit que vous avez été ému de l'entendre et tout ça. C'est parce que vous l'aimez, quoi.
Ah, mais complètement. Mais moi, ça marche aussi pour les romanciers. Hein. Moi, je pense que quand je lis Marguerite Duras, j'aime énormément Marguerite Duras. Ou quand je lis Yakutali Kavazovic, j'aime énormément. Vraiment.
Oui, oui. Voilà, c'est ça. Parce qu'on se sent proche, on se sent. Après, un romancier ou tout ça, c'est différent. C'est parce qu'il dit des choses qui vous touchent.
Oui, mais il y a un truc de son être qui passe aussi, moi.
Voilà, c'est ça, bien sûr. Mais acteur, c'est pareil. C'est-à-dire, vous avez l'impression de. Il y a un truc d'identification à la personne, quoi.
Est-ce que ce que disait Jeanne Moreau, forcément, quand il reste de la peur, il reste quelque chose de faux, il reste quelque chose qui sonne pas vrai, il reste quelque chose qu'on, voilà, qui va pas sonner juste.
Oui, ça forcément. Après, je pense qu'on a tout le temps peur, quoi. C'est la réalité, hein, c'est qu'on est tout le temps stressé et on a tout le temps peur de se planter. Mais à un moment donné, on l'oublie. C'est ça, les bons directeurs d'acteurs. En effet, c'est ceux qui réussissent à vous faire oublier que vous êtes en train de faire un film et que vous avez une caméra devant vous et machin et tout ça. Après, bon, on peut s'arranger pour essayer de le faire aussi, quoi, de se rassurer, d'essayer de penser à autre chose qu'à sa peur. Parce que je pense que c'est un moteur, un peu, la peur. Moi, je sais que si j'avais pas peur, par exemple, j'aurais pas de stress et du coup, je me mettrais pas de pression et du coup, je serais peut-être moins sérieux, j'essaierais moins de faire les choses bien, en fait, quoi. Parce que du coup, en fait, moi, ma technique, par exemple, c'est de me dire, il y a cette scène, mais quand il y a des scènes dures et tout ça, je me dis, bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, j'ai aucun autre choix
que de la faire.
Que de la faire et que d'être bien, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, j'arrêterai pas tant que ça sera pas bien, quoi.
Et quand Riyad Sattouf vous engueule parce qu'il croit pas du tout à des larmes que vous faites couler selon lui de manière pas assez naturelle.
Ça, c'est particulier. Après, moi, j'ai appris ce métier en faisant des tournages. Donc, forcément, il y a un moment donné, j'avais des scènes assez dures de pleurs et tout ça.
Quel est le titre de ce fameux film avec Riyad Sattouf?
Ouais, enfin, Jackie au Royaume des Filles, ouais. Et en fait, il y avait des moments où je savais pas comment accéder à cette émotion, quoi. Donc, parce qu'en fait, quand j'ai fait ce film, j'avais 18 ans, 19 ans. Évidemment qu'on évolue, on apprend à gérer ses émotions, on évolue un peu quand on est acteur quand même. C'est-à-dire, c'est pas directement.
Puis on est nourri aussi.
Une nature exceptionnelle. Voilà, on est nourri. On apprend au fur et à mesure des films. Moi, c'est ça qui est cool, c'est que j'ai appris à jouer en étant sur les tournages. Et donc, pendant Jackie, ouais, en effet, il y a des moments où j'arrivais pas à faire des choses comme ça. C'est très intime de pleurer devant une caméra et tout ça, c'est assez intime. Et donc, ça demande un lâcher prise assez dingue. Et Riyad, j'avais tellement envie de lui faire plaisir et tout ça, parce que parce que je l'admire, que c'est quelqu'un que j'aime profondément. Et j'avais tellement envie de lui faire plaisir que je me mettais une pression dingue. Et c'est exactement la même chose. En fait, j'avais peur. Et du coup, j'y arrivais pas forcément à chaque fois. Mais ensuite, on apprend à. Ensuite, déjà, ça vient, en fait, quoi. Parce que forcément, bon, on est sur un tournage et que c'est du travail, en fait. Mine de rien, c'est un travail un peu bizarre, mais de pleurer, c'est un travail un peu bizarre, quoi, par exemple. Mais ensuite, on apprend à. Comment dire? Ça s'apprend avec le temps, en fait. Plus on avance, plus on se connaît, plus on arrive à faire des choses différentes, quoi.
Mon autre, elle s'ennuie avec toi. Elle te trouve un peu gauche.
Quelqu'un de paresseux, à mon sens, c'est quelqu'un qui peut très bien ne rien faire quand il ne travaille pas, quoi. Et c'est mon cas, c'est-à-dire que je ne fais rien, je n'ai pas d'activité autre que vivre, autre que donc des choses, autre que monter mon cheval, lire un roman et me projeter un film le soir. Mais je peux très bien, je reste là, je ne bouge pas, j'ai pas besoin d'aller visiter des choses ou de découvrir des paysages. Bon, je crois que c'est ça ma paresse. Mais pour dès qu'on me propose quelque chose qui m'intéresse, bon ben je ne le suis plus du tout.
On est en 1996, il est au micro de Michel Simon et vous l'appelez Fifi Noiret.
Ouais, Fifi Noiret, ouais. Je me sens très proche de lui.
Lorsque vous avez découvert l'archive, vous avez dit « Ah, Fifi Noiret ». Oui, on termine avec cette archive-là, Vincent Lacoste de Philippe Noiret, qui dit « Je bouge pas. Ouais. J'ai juste à vivre, moi. C'est ça, mon travail. Quand on me propose des choses, je laisse de côté un peu une forme de paresse, mais sinon, j'ai pas besoin d'aller visiter des choses. » Très drôle de dire ça. Pourquoi Fifi Noiret ?
Je trouve hilarant. Moi, c'est un acteur que j'aime énormément, quoi. Je me sens très proche de lui. Après, moi, je suis pas du tout comme ça, par exemple. Je peux pas rester seul sans rien faire. Déjà, j'aime bien
visiter des choses.
J'aime bien visiter des choses. J'aime bien avoir plein de gens autour de moi et faire plein de trucs, en fait, parce que sinon, je m'ennuie assez facilement. Moi, j'essaie de fuir l'ennui tout le temps. En fait, dès que j'ai du temps, j'essaie un peu de voyager, de faire des trucs, même quand je suis à Paris, je sors, je vais voir des trucs. Je peux pas être, par exemple, sur mon cheval, comme il dit, sur mon cheval, ou lire un roman juste, et faire que ça pendant un mois, quoi. C'est-à-dire, il y a une espèce de truc de calme que j'aime pas du tout, quoi.
Oui, d'ailleurs, et dis-moi, mon seul métier, c'est de vivre.
Oui, ça, c'est vrai. Non, mais attention. Ça, après, mais c'est une autre manière. C'est une autre manière de. En effet, parce que les acteurs, quand on tourne pas, bon, soit on fait de la promotion, soit on fait rien, quoi. Mais après, il y a plusieurs manières de ne rien faire. Soit on peut rien faire et aller je ne sais où voyager ou faire ou alors ne rien faire comme ça et faire du cheval et lire des romans, quoi. Mais c'est des manières, il y a un milliard de manières de rien faire, quoi.
Qu'est-ce qui vous plaît dans le jeu de Philippe Noiret?
Bon, je le trouve hyper attachant, quoi. Je le trouve hyper émouvant. Il peut rester sans rien faire. Déjà, il a une voix exceptionnelle. Et puis, je sais pas comment dire. Il est rassurant. Il a l'air doux. Il a l'air gentil. Il a l'air de pas. En même temps, il a l'air d'être assez sûr de lui, de pas trop se poser de questions et de. On dirait un peu, voilà quoi, un tonton, quoi. Un tonton qui dit, t'inquiète pas, tout va bien aller.
En revoyant récemment le film de Justine Triet, Victoria, je me disais, mais comment on pourrait qualifier ce jeu qui fait que vous êtes un tout petit microseconde en arrière ou en avant de vous-même, enfin comme s'il y avait une sorte de mini contre-temps. Alors, je ne savais pas, est-ce que je me disais, est-ce que c'est une forme de détachement? Est-ce que lui-même a une forme de détachement? Est-ce que c'est quelques grammes d'ironie, y compris quand il y a une immense profondeur, une très grande sincérité, des choses extrêmement précieuses et profondes qui s'échangent? Mais comme si, voilà, je vous sentais sur un fil particulier.
Ouais.
Vous m'aidez?
Je sais pas, c'est peut-être ma manière de m'exprimer. Hein. Franchement, j'en ai absolument aucune idée. J'ai toujours été un peu comme ça. Après, je réfléchis, j'essaie de parler normalement, hein, mais.
Je dis pas que vous réfléchissez pas. Hein, vous imaginez bien que je dis pas ça.
Ah non, bien sûr, bien sûr. Non, mais à vrai dire, je le contrôle pas vraiment en fait, quoi. C'est-à-dire que.
Mais vous l'entendez, en tout cas, les autres vous le disent, qu'ils entendent ça.
Ouais, bien sûr, on me l'a déjà dit, mais c'est pas voulu en fait, quoi. C'est-à-dire que. C'est peut-être des fois j'essaie de paraître à l'aise, quoi. J'essaie de paraître à l'aise des fois, alors que je suis mal à l'aise très clairement. Donc je pense que les gens le voient de toute manière.
Donc vous ralentissez
et qu'ils
un
se disent ouais, mais qui du coup ils disent que c'est quelque chose de différent ou quelque chose de voilà que un peu bizarre ou enfin je sais pas comment dire. J'essaie toujours moi. Enfin après c'est assez peut-être que c'est parce que je me déconcentre des fois aussi, ou quelque chose comme ça. Des fois, il y a un peu ça aussi. C'est-à-dire que je pense à un truc, je commence une phrase, et ensuite, je me déconcentre moi-même de ce que je suis en train de dire. Donc, en fait, j'oublie ce que je voulais dire. Et à ce moment-là, ça fait ça, quoi. J'ai eu une concentration de poisson rouge, quoi.
Tout à l'heure, on disait que vous ne saviez pas du tout où vous alliez être il y a 10 ans, alors que vous en aviez 15.
Ouais.
Est-ce que vous vous imaginez un petit peu dans 10 ans?
Bah vraiment pas du tout, quoi. C'est assez dur de s'imaginer vieillir, hein. Très sincèrement. J'espère que je serai bien, quoi, que je serai content. Mais non, franchement, j'arrive pas du tout à m'imaginer ce que je ferai, quoi. Enfin, j'espère que je ferai du cinéma, des films qui me plaisent et que voilà, que je serai heureux, quoi.
Eh ben, on vous imagine content, alors.
Ah, magnifique.
Première année, c'est le film de Thomas Lilti. Il est mercredi en salle. Merci beaucoup, Vincent Lacoste. À la vôtre.
Merci beaucoup. Pardon, j'ai bu de l'eau.
Au son ce soir, c'était Nicolas Delmas et Morgane Danan, Charlotte Roux à la réalisation, Romain Debecq de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Lou Quevauvillier m'aident à penser et préparer cette émission. Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Quand vous voulez sur franceculture.fr, vous pouvez trouver la liste des musiques, la liste des archives, la liste des livres, la liste des émissions à réécouter et aussi vous abonner au podcast. Bonne soirée sur France Culture. Is what I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray, it's out of style. You get a step ahead, it takes 100 miles. An hour, what would I take? It's what I know. Try to get a favor going from door to door. You stop and pray, you know that's out of style. Get a step ahead, it takes 100 miles. Now you try to give another man a help and a hand. He will take your kindness for a week or stand. Never do to others what they do to you. You better do it to them before they do it to you. What you do and what you say has a lot to do in how you live today. What you want and what you make, everybody knows it's only what you take. An hour, what you see and what you hear. When it comes around again, it's not gonna be the same thing. Because you're gonna say yes and they're gonna say no. And then everybody gonna start talking and talking and blah blah everywhere you go. And you know something? You try to give another man a helping hand. You know what he's gonna do? He's gonna take your kindness for a week and stand. You try to do for others what you'd like for them to do to you. Forget it, it's gonna be some other kind of thing. So you try to give another man a listen, a helping hand. He will take your kindness for a week or so. Never do to others what they do to you. I'm gonna try to do the best I can, baby, to sock it to you. You better try to give another man another kind of helping hand. Try to